Chers frères et sœurs, donc Jésus, dans cet évangile, nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais bon, il ne nous invite pas à nous prendre pour des lumières et il ne nous invite pas non plus à mettre notre grain de sel partout. Alors je vais commencer d'abord avec vous de méditer un peu sur les images du sel et de la lumière et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire dans le contexte de ce passage d'évangile. Et puis après, de voir comment nous pouvons être sel de la terre et lumière du monde ici et aujourd'hui. Voilà. Alors d'abord, donc, les images du sel et de la lumière. D'abord, le sel et la lumière sont comme des révélateurs. Le sel, ça met en valeur la saveur des aliments. La lumière, c'est comme une servante. Normalement, on ne fixe pas ses yeux sur la lumière, mais elle nous aide à voir d'autres choses. Donc, elle éclaire notre chemin, elle nous aide à voir la beauté des choses. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas toutes les couleurs, et voilà, c'est dommage. Voilà. Et ce sel de la terre et la lumière, ça indique notre mission de chrétien. Alors, le Concile Vatican II en parle, dans cette mission. Et d'ailleurs, une petite question, quel est le document le plus fondamental du Concile Vatican II? Comment s'appelle-t-il? Lumen Gentium, la lumière des peuples. Et la lumière, donc c'est un document qui parle de l'Église, mais c'est, la lumière des peuples, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus. Vous allez voir l'introduction, bien sûr, vous verrez du document, voilà. Alors, le sel, toujours, c'est quelque chose qui est presque insignifiant, mais c'est le petit plus qui fait la différence. Vous mangez du pain, le sel, c'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. Quand on l'a oublié ou quand il est là, ça fait la différence. Mais c'est un peu la même chose aussi pour beaucoup de choses de notre vie. Je prends juste un exemple parmi tant d'autres pour ne pas prolonger, mais entre le fait de voir d'avoir l'impression d'avoir de la chance, donc c'est comme quelque chose qui nous est tombé d'un ciel un peu anonyme, et le fait de voir que c'est le bon Dieu qui nous a donné ça, c'est pas la même chose. Le cadeau de quelqu'un ou quelque chose qui est tombé d'un ciel anonyme, c'est pas la même chose. Et la foi, ça change tout. On est content d'avoir de la chance, mais on est quand même autrement plus content de voir que le bon Dieu nous aime et qu'il nous a donné telle ou telle chose. C'est pas la même chose. Ça change tout. C'est à la fois insignifiant et à la fois ça change tout. Toujours sur ces images du sel et de la lumière, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Église est appelée à ne pas être à côté du monde, ou contre, a fortiori, contre le monde, mais dans le monde. Le sel, on ne laisse pas la salière bien à part, et surtout, on ne mélange pas. Non. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, je vous dis ça pour vos familles, vous pourrez vous le redire au retour. On met la lumière sur le lampadaire, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors, ça commence par briller à la maison. Je vous dis ça au passage après, c'est aussi la lumière qui brille devant les hommes, et voilà, plus largement. Mais ça commence à la maison, quand même. Voilà. Mais alors, donc, en tout cas, pour revenir à cette idée, c'est pas contre le monde, c'est pour le monde. Le pape François revient souvent sur cette idée de... je vous répète, c'est un passage qui est cité très fréquemment, mais « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. » Je le répète ici pour toute l'Église, ce que j'ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires. Je préfère une Église accidentée, blessée, sale pour être sortie sur les chemins, par les chemins, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Voilà. Alors, donc cette idée que le sel, il n'est pas fait pour rester dans sa salière tranquillement. Nous sommes appelés à être dans le monde aussi. C'est pas pour le sel, il ne sale pas lui-même. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon. Et nous, notre vie, elle n'est pas pour nous-mêmes, elle est pour les autres. Et un prêtre, il n'est pas prêtre pour lui-même. Et, de toute façon, il ne peut pas se confesser, ça ne marche pas. Il doit aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Et troisième chose par rapport à ce sel de la terre et lumière du monde, bon, c'est clair que habituellement, la lampe, elle n'est pas faite pour être regardée. Bon, on aime avoir des lampes jolies, mais le but, ce n'est pas de regarder la lampe, c'est qu'elle nous aide à voir les choses. Et le but, quand Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », ce n'est pas pour nous faire admirer par les gens. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'indiquer Jésus. C'est ça qui est intéressant. Mais peut-être notre grande tentation, c'est peut-être pas de nous mettre sur le lampadaire, c'est peut-être de nous cacher sous le boisseau. Hein, le respect humain, c'est peut-être ce qui nous empêche. Bon, on a beaucoup de peur de comment on va être reçu, etc. Voilà. Donc on va bientôt prendre le refrain, je pense que... Voilà. Donc ça, c'était d'abord cette méditation rapide sur les images du sel et de la lumière. Alors, comment être le sel de la terre? Vous l'êtes parce que vous êtes, mais peut-être aussi parce que vous faites. Alors, pour ça, je vais m'inspirer de Paul VI, qui a écrit une exhortation apostolique qui est toujours actuelle, Evangelii Nuntiandi. Et dans cette exhortation apostolique, il nous dit, pour schématiser, il nous dit trois... Je retiens en tout cas trois pistes pour être sel de la terre. Parce qu'on peut être sel de la terre de bien des manières. D'abord, une première chose qui est peut-être plus diffuse, mais qui est essentielle, c'est l'évangélisation des cultures. Voilà ce qu'il dit. L'Église a l'ambition de transformer du dedans, de rendre neuve l'humanité elle-même. Elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes. L'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concret qui sont les leurs. Il s'agit d'atteindre et comme de bouleverser par la force de l'Évangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l'humanité qui sont en contraste avec la parole de Dieu et le dessein du salut. Voilà, alors donc ça c'est une première manière d'être celle de la terre, alors chacun selon notre... selon ce qu'on est, selon notre vocation, selon notre métier, mais de donner quelque chose avant. Alors, il faut certainement convertir les cœurs, bien entendu, mais il y a aussi une conversion au niveau des structures, au niveau de la société, et c'est une première manière d'être celle de la terre. Une deuxième manière d'être celle de la terre, c'est par le témoignage de vie. Et le pape Paul VI y était très sensible et il a des belles phrases à ce sujet, je vous le cite encore. L'évangile doit être proclamé d'abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et d'accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les efforts de tous, pour tout ce qui est noble et bon. Voici qu'en outre, ils rayonnent d'une façon toute simple et spontanée leur foi en des valeurs qui sont au-delà des valeurs courantes et leur espérance en quelque chose qu'on ne voit pas, dont on n'oserait même pas rêver. Par ce témoignage sans parole, les chrétiens font monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions irrésistibles. Pourquoi sont-ils ainsi? Pourquoi vivent-ils de la sorte? Qu'est-ce ou qui est-ce qui les inspire? Voilà, un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la bonne nouvelle. Il y a là un geste initial d'évangélisation. Alors, donc, c'est par notre manière de vivre. Alors, c'est pour ça, sans doute, que la liturgie a choisi comme première lecture ce passage d'Isaïe. Alors, si Ta lumière éclatera comme l'aurore si tu partages ton pain avec la famille, si tu héberges chez toi les pauvres sans-abri, etc. Donc, cette lumière que nous sommes appelés à répandre, ce n'est pas d'abord les belles paroles, c'est sans doute d'abord par des attitudes, amabilité, miséricorde, générosité. Hein, c'est le témoignage de la bonté. Voilà. Mais c'est pas. Il y a encore une troisième. Il manquait le troisième point, bien sûr. Donc, l'évangélisation de la culture, le témoignage de vie, mais aussi le témoignage explicite. Et je cite encore le pape Paul VI. Cependant, le témoignage de vie reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que saint Pierre appelait donner les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc, tôt ou tard, être proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. Voilà, alors ce témoignage explicite, le pape François y revient souvent, notamment dans sa lettre programmatique pour son pontificat Evangelii Gaudium. Voilà ce qu'il dit, entre autres: ce qui t'aide à vivre, ce qui te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Donc vraiment quelque chose aussi d'explicite. Alors, donc, j'arrive à la conclusion. Il y a quelques jours, on accueillait à notre table un laïc. Et ce laïc qui avait des idées très précises sur les homélies des prêtres. Alors on tremblait un petit peu en sachant ce qu'il allait nous dire. Mais c'était très très intéressant. Et d'ailleurs, il y a un prêtre qui était venu à l'abbaye et qui l'avait amené avec lui. Donc il l'accompagnait pour lui donner quelques conseils pour ses homélies. Et alors le conseil essentiel, en tout cas que j'ai retenu, il dit: oui, non, mais vous dites plein de belles choses, mais la chose la plus importante, c'est que les gens soient fiers d'être chrétiens. Sinon, après, comment voulez-vous qu'ils aillent témoigner après? Ils se cacheront, c'est les caméléons, parce qu'ils auront peur, ils auront un peu honte d'être chrétiens. La chose la plus importante que vous avez à faire, vous les prêtres, c'est de faire en sorte que les gens soient fiers de leur foi, qu'ils voient que leur foi est belle, qu'elle vaut la peine d'être partagée. Et je trouvais que c'était assez pertinent, sa réflexion. Et ça m'a rappelé un autre épisode. Alors, le plus jeune, vous ne l'avez pas connu, mais quand il y a eu les JMJ à Paris avec Jean-Paul II en 1997, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Habituellement, dans le métro, on ne se dit pas beaucoup bonjour, etc. À ce moment-là, pendant ces JMJ, tout le monde se saluait dans le métro. Ça a changé complètement l'ambiance à Paris. Et Jean-Paul II nous donnait justement cette fierté d'être chrétien. J'ai pas honte d'être chrétien, c'est beau d'être chrétien. Voilà, alors n'ayez pas peur de témoigner à votre tour de ce qui vous fait vivre. Amen.